La quotidienne de Transistor, c'est maintenant, c'est l'EM en coproduction une fois par mois avec les petits débrouillards Grand Ouest autour de l'adaptation au changement climatique. Et aujourd'hui, il fait dangereusement chaud en ville, non ?
L'EM, l'émission, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine, avec notre dernière émission au terme d'un partenariat de deux saisons avec les petits débrouillards Grand Ouest, une association qui fait de la médiation scientifique, vous le savez à force. On retrouvera certainement les petits débrouillards sur d'autres projets radio. Mais pendant deux années donc, il était question dans cette série d'émissions mensuelles d'un thème, le changement climatique, plus précisément l'adaptation au changement climatique. Et on sent très bien les enjeux cette semaine de juin à 35, 38, on nous annonce 40 degrés par endroit, même dans le Finistère, et oui, et ça ne va pas trop baisser la nuit. Sur nos côtes fraîches, on n'a pas l'habitude et on va donc devoir s'habituer. Et encore, nous, on peut aller se baigner. Mais quand on est en ville, assez loin de la mer, c'est vraiment plus dur, très dur, voire mortel. Quentin Gauthier est responsable secteur Finistère et Morbihan des petits débrouillards et c'est lui qui est avec moi au micro. Bonjour Quentin.
Bonjour Véronique.
Et aujourd'hui, il a convié Réseauville qui accompagne les collectivités, l'État, l'ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent dans le champ de la politique de la ville, en Bretagne et en Pays de Loire. Comme son nom l'indique, Réseauville fait du réseau, permet l'échange de pratiques entre villes, organise des rencontres, des séminaires, propose des informations, des ressources, des formations, permet aux connaissances, aux retours d'expérience de circuler dans le réseau pour profiter au plus grand nombre. Et donc pour représenter Réseauville en visio conférence, c'est le chargé de mission développement économique urbain, transition et data, Frédéric Frenard. Bonjour.
Bonjour.
On vous entend pas très bien.
Voilà. Alors, je vais me rapprocher.
Oui, voilà, merci. Alors j'ai un peu dit ce qu'était Réseauville, mais est-ce que vous pouvez nous préciser qui sont déjà les usagers de ce réseau en fait ?
Alors c'est un réseau qui est très très large, parce qu'on s'adresse à une communauté d'acteurs qui est concerné par les enjeux de la politique de la ville. Donc, on va s'adresser à des collectivités, donc des agents qui vont plutôt s'adresser, qui vont plutôt travailler dans les quartiers, des élus aussi, parce que c'est un réseau qui anime cette communauté également, des institutions publiques, donc ça va être des représentants de l'État, par exemple, dans différents domaines, l'éducation, la santé, l'économie, etc. Ça va être aussi des bailleurs sociaux et également des acteurs associatifs, puisqu'on a des têtes de réseau également qui sont présentes dans notre gouvernance, des citoyens également. Donc c'est un réseau qui est très très large, très hétérogène et en fait qui permet en fait de croiser des points de vue, des regards en fonction des thématiques et des enjeux qui concernent les quartiers populaires.
Voilà, parce qu'on est vraiment aussi sur des villes d'une certaine taille, parce que, enfin, vous travaillez pas, peut-être pas avec des petites communes où il y a pas de, où la notion de quartier populaire n'existe pas.
Alors, on travaille avec des territoires qui ont des tailles vraiment toutes différentes. En fait, on va avoir des grosses agglos, des grosses métropoles type Nantes métropole, Rennes métropole, Brest par exemple, mais on va avoir aussi des territoires avec des tailles plus petites. Du coup, pour situer par exemple Sablé-sur-Sarthe en Pays de Loire, mais on va avoir des territoires comme Lannion, par exemple, Guingamp, voilà. Donc, ils ont eu toute une caractéristique, c'est qu'ils ont au moins un quartier dit politique de la ville dans leur périmètre, quoi.
Et vous en avez 137, je crois, je ne sais pas si je suis à jour dans mes chiffres.
Oui, c'est à peu près ça, ouais, c'est ça, ouais.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des très nombreux thèmes que peut traiter Réseauville potentiellement ?
Alors oui, les thématiques, elles sont le reflet en fait des enjeux qui traversent le quotidien des professionnels. Donc, on va travailler sur la question du développement économique, de l'emploi, de la santé, d'éducation, de la question d'urbain aussi, la rénovation urbaine. On va travailler les questions aussi environnementales, transition, la participation citoyenne. Donc voilà, c'est très 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 large en fait, parce qu'en fait, on est sur une politique publique qui est dite très transversale. Donc, on s'attache à couvrir l'ensemble des champs en fait du quotidien des citoyens et voilà, on ne traite pas tous en même temps bien évidemment, mais ça va rentrer dans une programmation qui est définie avec nos partenaires et nos membres et en fonction en fait de leurs besoins, bon, on va ajuster la programmation en fonction des thématiques un peu prioritaires sur l'année, quoi.
Oui, d'ailleurs, je ne sais pas depuis quand Réseauville officie, mais vous avez peut-être constaté des évolutions dans les demandes de vos partenaires.
Oui, tout à fait. En fait, alors, Réseauville, pour répondre à votre interrogation, évolue en fait en Bretagne et Pays de Loire depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans. Et ça a été intéressant parce que la construction de Réseauville, ça a été d'abord en fait une volonté en fait de l'État et des collectivités d'avoir un espace commun de travail. Donc on est parti sur cette base. Votre question sur l'évolution des sujets, bah, effectivement en fait c'est aussi peut-être revenir sur un peu l'essence de la politique de la ville. La politique de la ville, ça a plus de 40 ans. Donc depuis 40 ans, elle a subi d'énormes évolutions. Alors la prise en compte des enjeux de cohésion sociale, de la rénovation urbaine, ça a été les enjeux un peu prégnants. Mais depuis plusieurs années, on voit aussi des sujets comme le développement économique monter en puissance, et puis le sujet vraiment des transitions, de la participation citoyenne également venir un petit peu étayer aussi les réflexions des acteurs. Donc oui, il y a des évolutions assez intéressantes. Et aussi parfois un peu plus sensible la santé mentale aussi dans les quartiers, le vieillissement, les enjeux d'adaptation au changement climatique, et effectivement voilà, ça c'est des nouveaux sujets qui arrivent qui sont, et je dis pas que c'est, en tout cas c'est des sujets qui sont importants, et c'est bien en tout cas qu'ils arrivent maintenant. Ils auraient pu arriver un peu plus tôt, mais je pense que les politiques publiques, les acteurs n'étaient pas encore en capacité de les travailler, quoi, du coup, mais c'est très très bien.
Il n'y a pas de thèmes qui disparaissent, à l'inverse.
Non, il n'y a pas de thèmes qui disparaissent. Mais avec des intensités, on va dire, un peu moins fortes. Je pense, par exemple, la participation citoyenne, par exemple, c'est un thème qui est présent depuis plusieurs années dans la politique de la ville, mais on voit qu'il tend à s'essouffler, quoi, du coup. Il va évoluer différemment, je pense, mais voilà, il y a des thèmes qui ont des cycles, peut-être, je sais pas.
Peut-être que les partenaires estiment que maintenant ils savent faire, ça fait longtemps qu'ils font. C'est peut-être ça aussi.
Ouais, il y a certainement un petit peu de ça, mais il y a aussi, je pense, des questions aussi de priorité. Hein, du coup, je pense qu'il y a aussi des approches qui sont très centrées sur des dispositifs qui ont eu peut-être tendance à assez soufflé du point de vue mise en œuvre, du coup. C'est pas pour ça qu'ils n'existent plus dans les collectivités, mais en tout cas, ils vont être abordés différemment, je pense. Le champ du développement économique, c'est pareil, c'était une grande majeure en 2014. On voit que là, il s'est peut-être un peu essoufflé. Il y a besoin peut-être de le reconfigurer différemment, en tout cas, et de le traiter aussi de façon plus globale, en fait. Souvent, les sujets sont... Ils sont tellement complexes en fait qu'on va les prendre un petit peu de façon très isolée. Je prends le sujet du développement économique parce que c'est un peu mon sujet. On a beaucoup mis le focus sur le sujet de l'entrepreneuriat, mais en fait l'entrepreneuriat c'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique économique dans des territoires. Il faut avoir des approches aussi sur le commerce, sur le soutien à l'économie sociale, etc. Voilà, donc il faut avoir des stratégies assez claires en tout cas pour y travailler. Et puis derrière, bah y associer les moyens. Et c'est souvent ça en fait qui pêche réellement en fait ensuite sur le terrain, c'est la capacité à faire pour les acteurs, quoi, du coup.
Et d'ailleurs, à propos de moyens, on n'a pas dit combien vous étiez de salariés à Réseauville.
Alors nous, on est une petite équipe en fait, on est 10 salariés qui sont répartis plutôt avec des profils de chargé de mission et des fonctions support, communication, direction, etc. Mais voilà, on est une petite équipe pour un très grand territoire. Donc nous, on n'est pas des spécialistes, comme on le dit souvent, on est plutôt des généralistes, mais on vient vraiment, nous, essayer d'éclairer en fait plutôt les acteurs de la politique de la ville, mais aussi leurs collègues du droit commun, pour qu'ils apprécient un peu les enjeux et qu'ils adaptent aussi leur façon d'appréhender leur sujet au regard en fait des enjeux spécifiques des quartiers populaires.
Alors là, il y a un sujet qui est particulièrement d'actualité, qui est la canicule. Alors vous, Réseauville, enfin, je ne sais pas si c'est Réseauville qui a créé cet outil, si vous avez participé à la création, en tout cas, vous le proposez, qui s'appelle Adapt Canicule. Qu'est-ce que c'est ? Comment vous pourriez nous le décrire ?
Alors, Adapt Canicule, c'est avant tout, je pense que l'envie en fait de d'éclairer en fait des situations un peu inédites sur sur les quartiers populaires, c'est parti il y a, on va dire, après 2020. Alors je vous fais un petit résumé, mais en fait la réflexion elle est intéressante de comprendre d'où c'est venu en fait. La politique de la ville, en fait, c'est très structuré par grandes thématiques. J'ai un peu évoqué tout à l'heure. Donc, on avait historiquement la cohésion sociale, l'économie et l'urbain. Et en fait, à partir de 2020, on sentait qu'en fait le sujet des transitions n'était pas suffisamment pris en compte dans les réflexions des professionnels et au niveau local, mais aussi au niveau national, du coup. Et en fait, on avait, nous, à cœur, en tout cas, de mettre le sujet au travail auprès de nos réseaux. Et à partir de 2001, donc dans le contexte post-canicule, on commence à y travailler. Et puis, on y travaille aussi en se formant, parce qu'on est, comme je t'ai dit, on n'est pas des spécialistes. Donc, on se forme, nous, à une fresque du climat à l'époque, du coup, pour un peu comprendre aussi les enjeux qui dépassent la politique de la ville. Et au moment où on se forme, on comprend en fait que les enjeux climatiques sont devant nous et qui sont assez conséquents. Et quand on fait le parallèle avec ces enjeux climatiques, avec les situations des quartiers, on comprend très vite en fait qu'il va se passer quelque chose et qu'on n'est pas du tout équipé et que, en gros, le sujet il est encore trop embryonnaire pour pouvoir être abordé de façon claire, on va dire. Donc, à partir de là, nous on commence à monter en fait un programme de travail avec quatre collectivités. Il y avait Quimper, il y avait La Roche-sur-Yon, Angers et Saint-Nazaire. Et avec ces quatre collectivités, en gros, ce qu'on se dit, c'est bon, on va essayer de travailler ensemble dans un cadre collectif pour regarder un peu ce que ça raconte en fait les enjeux climatiques à l'échelle des quartiers. Donc vraiment l'idée de vraiment monter en compétence ensemble sur le sujet. Et avec l'idée aussi que ce travail-là de monter en compétence, ils viennent servir en tout cas leur prochaine programmation dans la politique de la ville. Parce que le sujet de transition n'était pas un cap, en tout cas encore bien fléché au niveau national sur le sujet. Donc, on voyait qu'il y avait un besoin, en gros, de porter aussi du plaidoyer sur ce sujet. Et donc, avec ces quatre collectivités, donc on fait un peu ce qu'on fait d'habitude, des cycles de rencontres, de qualifications, etc. Et puis, on sortait, nous, d'un programme autour de la mobilisation de la donnée pour observer un peu différemment les quartiers populaires. Et là, on se dit, bah, autant remobiliser cette approche-là au service du sujet des transitions, et on propose du coup à ces quatre collectivités de mettre en place un programme data sur les enjeux climatiques. Et pour que ça soit facile à appréhender, on se dit bah on va regarder quelque chose qui est assez sensible, que tout le monde perçoit, et on choisit d'aller sur le sujet des canicules. Et c'était plutôt intéressant aussi d'aller sur ce sujet parce que ça concerne à la fois des enjeux d'aménagement, des enjeux de prévention, des enjeux de santé, etc. Donc, avec ces quatre collectivités, on se dit, bah, on va poser une question et on va essayer, à partir de la donnée, d'essayer d'y répondre. Donc, on part vraiment sur un travail exploratoire au début, quoi. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'en gros, les habitants des quartiers sont vulnérables aux enjeux canicules? Et donc, à partir de cette question, bah, nous, on va essayer de chercher les informations qui vont essayer de détailler cette problématique. Et puis, à partir des questions et des informations qu'on va chercher, ben on va chercher de la donnée qui réponde à ces informations. Et Adapt Canicule, c'est venu un petit peu de tout ça, d'une première étude, en fait, qu'on a fait sur un petit périmètre de Saint-Nazaire. Et clairement, tout de suite, ben, en gros, en juxtaposant, des données de température au sol et des données ou des variables socio-économiques, ben on s'aperçoit que ben, les territoires les plus pauvres en fait sont souvent ceux les plus exposés aux canicules, quoi. Et donc ça c'est le démarrage de l'étude. Et puis on a une opportunité à un moment donné, c'est qu'on rencontre en fait le ministère des transitions écologiques, donc et un programme en fait qui est incubé chez eux. Ça s'appelle l'Open Booster, c'est porté par l'Ecolab. Et en fait, avec eux, en fait, ils nous mettent à disposition, en gros, une équipe de bénévoles, en fait, qui sont plutôt très outillés sur la data, sur l'analyse, sur le traitement, sur tout ce qu'on ne sait pas encore trop faire, quoi, du coup. Et en fait, ces bénévoles, en gros, nous permettent de changer d'échelle. De l'étude de Saint-Nazaire, on réussit à mobiliser de la donnée plutôt à une échelle plus nationale, et en gros, on arrive à couvrir en fait un territoire qui est qui est plus important et ça nous permet du coup aussi d'avoir une interface plus accueillante pour aller valoriser toutes ces données, etc. Et donc Adapt Canicule naît à ce moment-là quoi, de ce programme qui nous permet en gros de changer d'échelle de petite étude de Saint-Nazaire pour avoir un travail un peu plus national.
Donc ça se présente comme, on va dire, une appli. Hein. On cherche par exemple sa ville et puis on voit la ville qui s'affiche avec des petits carrés de, je sais pas, c'est peut-être 100 mètres, c'est les parcelles de ville de
oui,
100 mètres
ça,
de côté.
C'est des carreaux de 200 par 200, qui permettent d'avoir une résolution assez intéressante. Donc là, pour avoir un premier regard en fait sur un prédiagnostic de territoire, donc on arrive à zoomer sur des zones et en fait en fonction en fait de la coloration en fait des zones, bah ça va nous donner un indicateur de la vulnérabilité du territoire en fonction en fait de la carte qu'on vient afficher.
Et alors il y a donc 5 critères de qualité, hein, de qualité de vulnérabilité, c'est ça que vous avez retenu particulièrement pour
exactement.
Les quartiers.
Donc on a essayé de construire un indicateur de vulnérabilité. Donc il y a un indicateur de vulnérabilité sociale en fait qui est composé en fait de plusieurs dimensions qui vont un peu exprimer la fragilité des populations face à cette aléa clinicule. Donc c'est les jeunes enfants, donc on a des données sur les 0-3 ans, c'est le grand âge aussi parce que c'est des personnes qui vont être plus affectées à ces canicules, c'est la question du logement collectif, ça se comprend hein, du coup qu'on a une densité de population habiter dans des logements denses, avec parfois peu d'accès à des espaces verts ou de terrasses, ça va créer une forme d'inconfort. C'est des données qui vont venir aussi questionner les conditions économiques aussi des populations. Donc là, on touche vraiment aussi à la capacité d'adaptation des populations. Et donc avec ces indicateurs, en fait, on vient un peu zoomer en fait sur une vulnérabilité des populations. Et on va pouvoir comme ça un petit peu orienter en fait des pistes d'action en fait pour pouvoir aborder en fait l'aspect vraiment très populationnel en fait de cet épisode de canicule.
Alors, puisque c'est les petits débrouillards quand même qui produisent cette émission, Quentin Gauthier, les petits débrouillards, ils travaillent déjà aussi sur ce thème des îlots de chaleur, des politiques de la vie dans les quartiers populaires. Mais comment est-ce qu'ils font? C'est différent leur méthode, quoique.
Ah, déjà, ce que je voudrais dire en premier lieu, c'est que on s'est basé un peu sur quand on a répondu à cet appel à projet pour l'Europe, on a cherché des sources, du contenu, et notamment ce qu'avait produit Réseauville. C'est-à-dire que ça nous a servi de base aussi pour étayer ce qu'on avait déjà ou se donner d'autres infos pour construire ce dossier-là et voir l'importance. Parce que évidemment, nous, on connaît Réseauville via la politique de la ville, c'est-à-dire que nous, on travaille en politique de la ville un peu dans cette ville bretonne. Et lors de politiques, de forums, de la politique de la ville, des fois, voilà, c'est comme ça qu'on a rencontré Réseauville, qu'on a découvert ce qu'ils faisaient, etc. Donc ça, c'est un peu nourri le projet. Et c'est vrai qu'on avait depuis longtemps ces questions d'îlots de chaleur et d'îlots de fraîcheur en quartier politique de la ville, et comment on pouvait aborder la question. Donc c'est ce qui nous a permis en fait, de le faire à une échelle plus importante dans ce projet-là, puisque c'est un des volets, le volet quartier. Et ça, c'est comment nous, des fois, on a nos antennes qui sont dans les quartiers prioritaires, mais des fois pas. Et l'idée, c'est pas d'arriver avec nos gros sabots et de dire avoir un discours moralisateur, parce qu'évidemment, il y a plein de contextes. C'est vrai que voilà, c'est des populations qui sont aussi plus vulnérables, etc. Donc, on va pas arriver en disant faites attention à ci, attention. C'est pas ça. C'est de construire quelque chose avec eux, de voir avec eux et de leur faire découvrir leur quartier. Donc, ça peut passer par des balades exploratoires où les habitants des quartiers se baladent soit sur leur trajet pour aller au travail ou leur déplacement pour aller à tel ou tel endroit, et de pouvoir essayer de faire un diagnostic, de voir un peu, de prendre des mesures, de savoir là où il fait plus chaud, là où il fait plus froid, faire des remarques sur comment est aménagé leur territoire, est-ce qu'il y a des zones qui connaissent, qui sont plus ou moins ombragées, pas ombragées, des zones plus ou moins bitumées, et c'est de proposer en fait un premier diagnostic. Et pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait par la suite. Alors nous, on n'a pas la mainmise pour discuter avec les urbanistes, mais c'est avoir des données à voir, d'essayer de comprendre ces enjeux-là, parce que beaucoup de fois, souvent, ils font de l'adaptation sans le savoir. évidemment. Et ça, c'est voilà, de faire conscience de ces enjeux-là et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur quartier et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à petite échelle pour voir y remédier. Donc nous, on est sur une approche plus, on va dire, individualisée, mais d'avoir ce regard de réseau ville qui est plus macro, ça donne des idées, etc. Et c'est vrai qu'Adap Canicule, ben, nous, on l'a découvert après coup. Et on pourrait se dire, ça, comment on pourrait l'utiliser dans nos ateliers pour faire prendre conscience de certains aspects et de voir ce que, qu'il y a des récurrences qu'on peut retrouver d'une ville à une autre et qu'on n'a pas conscience. Et donc là, peut-être que c'est un truc qu'on pourrait imaginer par la suite. Et puis aussi, il y avait aussi dans des projets, c'est de créer des petits îlots de fraîcheur où on se sent bien, etc., à une échelle voilà, locale. Donc ça demande, bien sûr, du travail avec les voilà à demander à la ville à l'agglomération si ce qu'on est ce qu'on peut faire et pas dans le cadre d'autres appels à projets qui cofinancent le projet européen. Mais ça oui, c'est un projet de fond, les îlots de chaleur.
Ouais, mais déjà, c'est vrai qu'avec Adap Canicule, on visualise très bien voilà, les points rouges, même si à Brest, par exemple, il n'y en a pas énormément des petits points rouges. Il y en aura peut-être de plus en plus, Frédéric Frenard. Et justement, cet outil Adap Canicule de Réseauville, il n'est pas figé du tout. Hein, il est toujours en construction, c'est ça.
Hein. Exactement ça, parce qu'on a eu cette opportunité, en tout cas, de changer d'échelle. Mais en fait, au moment où on a bénéficié du programme, on avait une grande liste de courses, entre guillemets, et on voulait à la fois changer un peu son ergonomie pour qu'il soit beaucoup plus facile et qu'il permette en fait des entrées par territoire pour comprendre en fait le risque caniculaire et comprendre aussi toutes les variables en fait socio-économiques pour donc faciliter la lecture du prédiagnostic. Donc nous, dans l'idée, là, c'est dans les mois à venir, c'est de passer à une V2. Donc une V2 vraiment plus sympa au niveau de l'ergonomie, mais aussi une V2 qui vienne nous permettre d'alimenter de nouvelles données, en fait, pour avoir une couverture encore plus fine, parce qu'aujourd'hui, on couvre 80 aires urbaines, donc c'est pas l'entièreté du territoire national, et donc on aurait la capacité, en tout cas, de passer sur une couverture nationale.
Là, c'est pas que Bretagne-Pays de Loire, pour le coup, Adap Canicule. C'est vrai qu'on l'a pas précisé.
Tout le territoire national, ouais. Et donc l'ambition aussi derrière l'outil, c'est que ça soit un outil ressource en fait pour les acteurs locaux. Et dans l'idée d'un lieu ressource, l'idée c'est d'aller documenter des projets qui sont portés comme les petits débrouillards, qui viennent aussi identifier des solutions à la bonne échelle, au bon niveau, qui viennent questionner aussi les approches purement aménagement pour venir y apporter du sensible, des choses que les aménageurs ne voient pas forcément quand on est dans un quartier populaire. Donc c'est pour ça que la partie ressources, en tout cas, ça va être un axe très fort de développement pour la suite. Et puis pour que ce soit un outil qui soit vivant, en fait, on veut aussi le diffuser plus largement en fait sur les territoires. Donc je pense que ça peut être intéressant, par exemple. Pour réagir au propos des petits débrouillards, de voir aussi de quelle manière on peut venir acculturer les professionnels au niveau local sur leurs données, qu'ils comprennent en fait pourquoi certains secteurs sont plus vulnérables que d'autres, et venir mettre en dialogue en fait les directions qui sont en charge de la santé publique, la cohésion sociale, l'aménagement, des espaces verts, du logement, pour qu'en fait ils comprennent en fait les enjeux qui sont propres à leur secteur et qu'ils puissent identifier collectivement en fait comment on peut ajuster nos réponses à ces problématiques. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire pour la suite, c'est diffuser l'outil le plus largement possible. Et puis il y a des petites applications qui sortent là. Du coup, j'ai mon collègue qui a sorti une petite application sur les îlots de fraîcheur, en gros sur les espèces de fraîcheur à partir des données d'Adap Canicule. Donc, vous pouvez faire une recherche, pareil, par adresse ou par QPV, pour identifier les espaces verts frais. Et c'était assez intéressant, du coup, ce travail-là, parce qu'en fait, on peut avoir comme sentiment que tous les espaces verts sont frais. Et en fait, en regardant la cartographie, on s'aperçoit que finalement, il y a des espaces verts qui sont pas du tout frais. Donc, c'est un regard qui vient alimenter aussi le travail des professionnels pour avoir un peu des analyses un peu à contre-pied des idées reçues qu'on peut parfois avoir. Donc voilà, le développement, ça va être pour 2026-2027. Donc on pourra en discuter en tout cas sans souci.
Ben oui, on pourrait vous réinviter. Sur les données, c'est vrai qu'on n'a pas précisé les données que vous avez utilisées. Elles viennent essentiellement des services publics, en fait, c'est ça.
Oui, complètement. Et justement, ça, c'est peut-être c'est des éléments sur lesquels on pourrait discuter aussi. Principalement, les données socio-économiques, c'est des données INSEE, en fait, qui sont produites par l'INSEE. C'était données 2019. Donc ça, c'est aussi c'est un écueil, en fait, l'ancienneté des données. Les données de température, c'est un satellite américain, Landsat 8, qui sont en accès libre. Donc voilà, c'est pas que de la donnée publique, de collectivité, en tout cas, ou d'institution publique. Les données climatiques, les données, on va dire, plutôt des espaces verts, c'est le CEREMA, en fait, qui nous les transmet.
Un organisme qui travaille sur les risques environnementaux, ouais.
Ouais, c'est ça. Et les données, en fait, plutôt, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, les données d'accessibilité de lieux ressources de lieux ressources, c'est des données OpenStreetMap.
Donc, la donnée ouverte qui peut avoir été alimentée par les petits débrouillards qui parfois utilisent.
Certainement, je pense.
Ouais, c'est ça. Oui, parce que vous pourriez, alors là, on n'a plus trop le temps, malheureusement, mais vous pourriez aussi, justement, pour faire connaître Adapt Canicule, lancer des recherches participatives, enfin des collectes participatives.
Ouais. Exactement. Et ça, c'est justement dans la V2 d'Adapt Canicule, on avait cette réflexion-là, c'était de permettre aussi de venir importer, en fait, des données de la collectivité ou des données du type données citoyennes. Et on avait ce projet-là aussi avec un autre territoire hors Bretagne pour justement faire de la captation, en fait, de données dans l'espace public, mais ou dans le logement, par exemple, pour voir aussi comment comment les données pouvaient se compléter avec nos données. Donc oui, c'est la donnée citoyenne, c'est une très bonne piste et qui serait vraiment très complémentaire, je pense, aux travaux connus.
Eh ben, on va devoir s'arrêter là, c'est bien dommage. On va remercier les petits débrouillards. On va vous remercier aussi Frédéric Frénard et Réseauville. Et puis je pense qu'on aura sans doute l'occasion de vous réinterviewer sur les évolutions de cet outil ou d'autres outils de Réseauville. Merci beaucoup et merci Quentin pour toutes ces émissions. Et on pourra tous les réécouter sur le site internet.
Hein. Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Pour d'autres aventures, au revoir.